toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission Écoforum, l'émission qui donne la parole aux actrices et aux acteurs engagés des transitions environnementales et solidaires de Marseille et sa région. Nous sommes le mercredi 31 mai 2023 et nous sommes en direct de 19h à 20h et vous pourrez retrouver cette émission demain en rediffusion jeudi 1er juin entre 9h et 10h ainsi qu'en podcast sur Radio Galère, rubrique Écoforum. Cette émission s'inscrit dans le cadre de la forêt des possibles qui est menée en partenariat avec l'Arbre des imaginaires. Dans une société en crise, la forêt des possibles est un projet de société qui propose un monde foisonnant, interdépendant et résilient. Et surtout qui vous invite, vous, chères auditrices, chers auditeurs, à trouver votre juste place au travers des témoignages de nos invités inspirants sur Radio Galère, grâce à l'allégorie de l'arbre, au wiki de l'Arbre des imaginaires et ainsi qu'à de la résilience marseillaise qui vous est proposée chaque semaine. En effet, nous questionnons la place du jeu dans le nous et du nous dans le tout, soit d'un individu qui s'investit dans un collectif afin de transformer le système. Je suis Marin Moffret et accompagné ce soir de Gilliane et Sidi qui sont en régie et qui rendent cette émission possible. Et ce soir, nous recevons Lucas Zufik. Bonsoir Lucas.
Salut Marin.
Que nous avons déjà reçu au tout début du mois de janvier pour présenter l'association Amerma. Mais ce soir, Lucas, tu viens pour présenter un autre de tes projets qui s'appelle Apporter Demain, qui est une BD qui a été co-écrite avec deux de tes co-écrivains qui sont Théo Sall pour l'écriture et Jonas Teboul pour le dessin. Et en fait, la BD Apporter Demain que je vais présenter très rapidement avant de te laisser la parole vise à présenter la France telle qu'elle serait si nous avions appliqué la Convention citoyenne pour le climat. Je ne vais pas être extrêmement original, je vais juste lire la toute petite description qu'il y a derrière le livre, qui dit que entre octobre 2019 et juin 2020, la Convention citoyenne pour le climat a réuni 150 citoyens et citoyennes français tirés au sort qui ont produit un rapport présentant des mesures pour réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. L'application sans filtre de ces 150 mesures impacterait tous les aspects de notre mode de vie. Et la question que l'on se pose est de savoir à quoi ressemblerait la France si toutes ces mesures étaient mises en place. Chers auditeurs, chères auditrices, je vais vous présenter un peu le plan que nous allons suivre ce soir pour pouvoir discuter autour de cette BD. Dans un premier temps, on va s'interroger sur le parcours de Lucas et donc la question du moi, de l'individu. Ensuite, on questionnera ce que c'est que la Convention citoyenne pour le climat et pourquoi est-ce que ça a été important pour Lucas ainsi que pour Théo et Jonas de pouvoir retranscrire ce qu'il s'est fait au cours de cette Convention citoyenne pour le climat dans une BD. Puis, nous questionnerons les grandes propositions qui sont à la fois thématiques avec une approche extrêmement systémique que propose cette BD. Et enfin, on se posera quelques grandes questions qui sont quels sont les leviers qu'on peut mettre en place pour appliquer malgré tout les mesures qui se trouvent à l'intérieur, alors même qu'elles n'ont pas été pour l'instant votées dans leur intégralité dans le corpus législatif français. Je m'arrête là et je vais commencer avec notre toute première partie qui est celle de la présentation. Lucas,
oui.
Bienvenue à nouveau et
je
t'invite à te présenter, te représenter pour nous parler de ton parcours.
Très bien. Alors, je m'appelle Lucas Zufik, j'ai 30 ans bientôt et je suis marseillais. Voilà, j'ai passé les 20 premières années de ma vie à Marseille, puis je suis parti faire mes études d'ingénieur à Centrale Nantes et je suis revenu il y a 5 ans, en 2018. Je m'étais spécialisé dans l'ingénierie navale, donc j'ai travaillé pendant quelques temps dans différentes entreprises, dans deux entreprises en fait, d'ingénierie ou d'architecture navale, à Roquefort-la-Bédoule et à La Ciotat, donc voilà, très local. Et puis finalement, une prise de conscience écologique forte m'a fait quitter ce travail, puisque j'avais essayé d'orienter un peu nos activités vers plus de vert, plus de responsable. Malheureusement, ce n'était pas possible parce que la structure était trop petite et diversifier ses activités, notamment en période de crise un peu avec le Covid, c'était trop compliqué. Donc, j'ai préféré tout simplement quitter mon travail. Et là, du coup, ça fait 3 ans aujourd'hui que je travaille dans la transition écologique et sociale, notamment avec le Campus de la Transition, qui est une association et un organisme de formation donc qui propose à la fois des formations académiques et professionnelles sur les sujets de la transition. Dans ce cadre-là, j'accompagne une université, notamment l'université de Cergy, à intégrer les enjeux de la transition dans tous les enseignements. Je travaille aussi donc avec l'association Amerma, pour laquelle tu m'avais reçu avec David.
Tout à fait.
Donc en gros, sur l'opportunité de créer un écosystème industriel low-tech en PACA. Et donc du coup, c'est une étude qui a été commandée par l'ADEME PACA. Et je travaillais principalement sur le projet de la BD sur mon temps libre avec Théo et Jonas. Voilà, une BD qui est sortie il y a 2 mois à peu près, le 7 avril.
On retient donc le parcours d'une personne qui a été ingénieur, qui s'est projeté dans un premier élan de vie, peut-être plus traditionnel, et puis qui s'est posé quelques grandes questions avant de faire son pas de côté pour essayer d'arpenter les chemins des transitions et qui sont assez représentatifs d'une partie de la génération à laquelle nous appartenons, Lucas.
Exactement.
Ils ne sont pas avec nous ce soir, mais c'est peut-être l'occasion quand même de dire 2 mots sur Théo et Jonas et les présenter très rapidement avant de pouvoir nous plonger dans la BD.
Avec grand plaisir. Donc Théo a fait Centrale Nantes comme moi. Lui, il vient du 93, de Seine-Saint-Denis. À Centrale Nantes, il s'est spécialisé principalement en qualité environnementale du bâtiment, secteur dans lequel il a travaillé pendant quelques années, avant finalement lui aussi d'être assez déçu par les activités qu'il avait, qui, malgré le titre de son emploi, n'allait pas forcément dans le sens de ses convictions, c'est-à-dire qu'il travaillait avec des promoteurs, il avait l'impression de mettre un peu de peinture verte sur les murs. Et il en a eu marre. Donc en fait, il a quitté son travail à peu près en même temps que moi, ce qui nous a permis de nous épauler pas mal en fait dans cette recherche, puisqu'on faisait vraiment un pas dans l'inconnu, quoi. Aujourd'hui, Théo habite toujours à Nantes et il travaille avec moi pour le campus de la transition, pour cette BD à portée de main, et pas pour l'ADEME PACA, puisqu'il habite à Nantes. Voilà. Et Jonas, qui est le cousin germain de Théo, en fait, a fait une école d'archi, puis une école de BD. Et donc là, c'est la première BD qui sort. Avec Théo, on est allé le chercher justement parce qu'on voulait travailler sur ce thème des imaginaires, des nouveaux récits pour la transition, puisqu'on se disait qu'une transition écologique et sociale ne passait pas forcément par des solutions techniques, et que donc du coup, il fallait un peu changer nos cultures, nos manières de voir le monde, nos visions du monde, donc. Et donc on a souhaité s'intéresser à cette thématique des imaginaires et des nouveaux récits, donc on est allé chercher Jonas qui gentiment a accepté de collaborer avec nous sur ce projet.
Thématique qui nous est chère dans cette émission, et qui est chère à la forêt des possibles et à l'arbre des imaginaires. Et effectivement, en tant que telle, la Convention citoyenne pour le climat propose un imaginaire qui est un petit peu différent dans la façon de penser une politique publique. Et on passe dans la deuxième partie, là on a vraiment questionné quelles étaient vos trajectoires à tous les trois. Et là, vous intégrez finalement un espèce de processus qui s'est mis en place, qui est une espèce de collectif assez complexe, assez complet aussi, qui a été celui de la Convention citoyenne pour le climat. Donc pour celles et ceux qui suivent un peu la trajectoire qu'on aime donner à nos émissions, on passe du moi au nous. Je te laisse nous présenter un peu ce que c'est que cette Convention citoyenne pour le climat. On en a énormément parlé à la suite des Gilets jaunes, on en a énormément parlé sur les promesses qui ont été faites de Macron pour qu'elle puisse être présentée sans filtre, soit au vote du Parlement, soit directement au référendum. Et finalement, nous n'avons jamais eu à voter sur cette Convention citoyenne pour le climat. Je te laisse la décrire davantage.
Ok, avec grand plaisir. Donc on l'explique bien dans l'introduction du bouquin. Comment est née en fait cette Convention citoyenne? Justement, tu le disais, elle est née suite à la crise des Gilets jaunes. Donc la crise des Gilets jaunes elle-même est apparue suite à l'instauration d'une taxe carbone. Qui était une mesure en faveur de l'environnement, mais qui était très injuste socialement, puisque voilà, elle touchait des gens qui avaient besoin notamment de leur voiture pour aller travailler, qui galéraient à payer l'essence plus chère. Et donc du coup, ça a créé les Gilets jaunes. Donc pas que, mais ça a été la principale cause des Gilets jaunes. Et donc pendant cette crise des Gilets jaunes, on a vécu finalement une crise démocratique. On a eu beaucoup de demandes vers plus de démocratie. Donc on a eu, tu te rappelles peut-être, l'épisode des cahiers de doléances un peu en mairie. Le grand débat. Les cahiers qui ont été perdus en mairie, on ne sait pas où ils sont passés, etc. Il y avait des demandes pour un référendum d'initiative citoyenne, le RIC. RIC. Exactement. Et finalement, les associations donc environnementales et démocratiques, donc notamment on peut citer Démocratie Ouverte, ont poussé pour l'instauration d'un exercice assez inédit de démocratie participative. Donc est née la Convention citoyenne pour le climat. Donc c'est un institut de sondage qui a tiré au sort 255 000 numéros de téléphone, si je ne dis pas de bêtises. Et parmi ces 255 000 numéros de téléphone, ils ont appelé tout le monde en fait, pour connaître d'où les gens venaient, quelles études ils avaient faites, quels postes ils occupaient aujourd'hui, où est-ce qu'ils étaient, enfin voilà. Tout un tas de questions qui permettaient finalement de rentrer des gens dans des cases, et à la fin ils ont pris 150 personnes qui étaient représentatives de la France. Donc ils ont fait une mini-France finalement. Il y a même par exemple des gens d'outre-mer qui étaient tirés au sort et qui ont participé à cette convention citoyenne, ce qui était hyper important. Et donc ces 150 personnes représentatives de la société française ont travaillé ensemble. Donc du coup ils ont eu une mission qui était de trouver un plan finalement pour réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990 dans un esprit de justice sociale. Et ce dans un esprit de justice sociale est évidemment éminemment important suite aux Gilets jaunes.
Et alors tu nous parlais d'un exercice d'ampleur inédite de démocratie participative. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la démocratie participative et ensuite de façon concrète comment elle s'est appliquée dans le processus qui a accompagné toute cette méthodologie ?
Ok, alors ne m'en voulez pas si la définition n'est pas exactement correcte parce que je ne suis pas législateur, mais nous on est dans un système de démocratie représentative, c'est-à-dire qu'on vote pour des représentants. Donc on vote pour des députés par exemple qui vont voter les lois pour nous à l'Assemblée nationale. La démocratie participative, elle demande directement aux citoyens de participer. Donc par exemple quand on fait un référendum, c'est un exercice de démocratie participative. Voilà. Donc on participe en tant que citoyen à l'élaboration et au vote des lois.
Et alors là, concrètement, pour ce qui concerne la Convention citoyenne pour le climat, comment est-ce que se sont organisés les travaux ?
Ils se sont organisés au Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Donc il y avait une enveloppe de 5 millions d'euros pour organiser cette Convention citoyenne pour le climat. Et en fait, on a fait notamment, vous pourrez retrouver dans la BD, une grosse page d'organisation. Donc en fait, on voit qu'ils étaient très suivis. Donc évidemment, il y avait un groupe d'appui, il y avait un groupe de garants, il y avait des fact-checkers, il y avait des experts, il y avait des animateurs. Les facilitateurs ont énormément participé à la création finalement de cette intelligence collective qui a été à l'œuvre tout au long de cette convention citoyenne. Donc convention citoyenne qui a duré 9 mois. En fait, les citoyens venaient 3 jours par mois au CESE et entre les sessions, ils devaient travailler chez eux sur les mesures. Voilà.
On présentera les mesures juste après, mais on va pouvoir continuer sur la continuité du processus en tant que tel de démocratie participative avant aussi de présenter la BD. Comme on le sait, à l'arrivée, les 426 pages, si je ne m'abuse, du rapport ont été présentés au président de la République qui aurait pu ensuite directement les faire voter. Ça a abouti à la loi climat et résilience, il me semble.
Exactement.
Dont il n'y a que 13 ou entre 13 et 15% des propositions qui ont été reprises telles quelles, ce qui, en tant que tel, peut être considéré comme une déception. Et pourtant, les avis sont partagés avec des vraies avancées et aussi une déception. Est-ce que tu peux nous présenter un aspect positif majeur et un aspect dommage majeur par rapport à cette convention ?
Alors, je vais présenter deux aspects positifs majeurs. Le premier, c'est que cette convention citoyenne a fait des émules un peu. Donc, elle a fait des émules au niveau local. Donc, on peut citer, par exemple, une convention citoyenne sur le climat qui a eu lieu en Seine-Saint-Denis, avec 100 citoyennes et citoyens tirés au sort. Et donc, du coup, qui va prendre en compte des particularismes locaux qui sont un peu gommés, finalement, quand on se retrouve avec une mini-France. Donc, voilà, c'est intéressant. On peut citer aussi des conventions qui ont eu lieu, enfin la convention citoyenne sur la fin de vie qui a eu lieu au niveau national, et aujourd'hui on parle de plusieurs nouvelles conventions citoyennes au niveau national encore, donc par exemple justement sur la démocratie, mais aussi sur l'immigration, et aussi là j'ai vu aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Donc en fait on se rend compte que ce processus démocratique il est très intéressant, on le voit notamment avec l'ambition qu'il y a dans le rapport de la Convention citoyenne pour le climat. Donc en fait, ce processus, il est répliqué. Et ça, déjà, c'est une première grosse avancée, je trouve. Le deuxième point vraiment positif, c'est qu'on a un rapport qui est à portée de main pour justement aller piocher des mesures qui permettront de réduire nos impacts et nos émissions carbone sur le territoire. Donc ça, c'est le deuxième point vraiment très positif, c'est que ce rapport, bon, ok, il n'a pas été adopté immédiatement, mais là aujourd'hui, et on y reviendra en quatrième partie si je ne dis pas de bêtises, mais donc ce rapport, en fait, aujourd'hui on va piocher des mesures dedans, et donc du coup il est toujours là. Ça c'est le deuxième point vraiment très positif.
Et alors, est-ce que tu pourrais nous donner ton sentiment sur les raisons pour lesquelles c'est pas allé jusqu'au bout ?
C'est compliqué. Pour ça, je préfère laisser la parole aux citoyens qui l'ont vécu de l'intérieur et qui se sont retrouvés confrontés à une diversité d'acteurs, et notamment des ministres, des lobbies, le président lui-même, Macron, et qui en fait nous disent qu'à la base, quand cette convention citoyenne pour le climat a été instaurée, probablement que ceux qui l'ont décidé au niveau du gouvernement ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi ambitieux. Et donc du coup, c'est facile de s'engager quand on pense qu'il ne va rien en sortir. Finalement, en voyant après ce qu'il est sorti, se sont mis en place tout un tas de process qui ont permis de dénaturer cette loi, enfin ce rapport, pour finalement en faire quelque chose à l'eau tiède, quoi.
Et donc cette chose à l'eau tiède, c'est quelque chose que vous n'avez pas voulu laisser tel quel, vous, Théo, Jonas et toi, Lucas. Et j'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles à un moment vous vous êtes dit aussi que vous vouliez vous retrouver pour faire cette BD. Donc là, je t'invite à ce qu'on puisse en parler un peu plus sur la BD en tant que telle. Pourquoi est-ce que ça vous a semblé important, toi qui disais tout à l'heure de vouloir travailler sur la question des imaginaires, de choisir ce sujet-là ?
Alors, pour tout te dire, au début, quand on est allé chercher Jonas, on ne pensait pas du tout partir sur ce sujet-là, justement. On voulait écrire une jolie histoire de fiction qui nous permette de nous projeter dans un monde enviable, qui aurait réussi une transition écologique et sociale, etc. Sauf que Théo et moi, on est deux ingénieurs. Niveau créativité artistique, c'est pas incroyable.
C'est pas vrai, on parlera de la BD après, mais vas-y.
Oui, non, mais voilà, pour écrire une jolie histoire, c'était quand même un peu compliqué. Et puis, donc, mais bon, on était parti quand même sur quelque chose qui peut-être sortira plus tard, on verra. On avait commencé à écrire quelque chose. Et finalement, comme je disais tout à l'heure, je travaille aussi sur d'autres projets. Et en fait, c'est dans le cadre d'autres projets qu'on s'est intéressé à ce rapport pour aller chercher, je t'avoue, je ne sais plus quelles mesures on voulait aller regarder plus en détail. Et en fait, en parcourant le rapport en entier, on s'est dit, mais en fait, il est vraiment super intéressant et c'est fou que personne ne le connaisse, quoi. Et c'est vraiment ça qui nous a motivés, c'est se dire, c'est quand même incroyable qu'on ait un plan de cette qualité-là et qu'il reste à l'état de rapport. Donc, comme tu disais, 426 pages, il faut se le farcir. Il faut aller le chercher. Il faut avoir connaissance de son existence. Et ensuite, il faut le lire, quoi. Et c'est pas très rigolo à lire, quoi. Donc, du coup, on s'est dit, si on montre le monde qu'ils ont voulu dessiner avec ce rapport, c'est une projection dans ces imaginaires-là. Et on s'est dit, ça fait un peu double emploi. Déjà, on montre cette projection et en même temps, on défend cet exercice qui a été complètement abandonné à la fin. On a mis un peu le rapport à la poubelle pour pas l'appliquer. Et donc, du coup, on s'est dit, c'est trop dommage que ça existe pas. Enfin, que personne connaisse son existence, quoi.
Et alors, pour commenter cette BD, je dois dire à celles et ceux qui nous écoutent que je l'ai lu deux fois. La première, c'était pour la découvrir, et c'est sûr que ce qui saute aux yeux, c'est effectivement les imaginaires que vous avez voulu promouvoir. Alors, pour décrire un petit peu la façon dont elle est construite, il y a les cinq grandes thématiques qui ont été abordées dans la Convention citoyenne pour le climat, qui sont entourées par l'introduction qui explique le processus de création, et puis ensuite une espèce de mini-conclusion. Et chaque thématique va avoir une planche de deux pages, qui va prendre une sous-thématique par rapport à la thématique principale. Donc, par exemple, se loger, puis ensuite une proposition concrète. Et à chaque fois, il va avoir le constat qui va être proposé, qui va être présenté, puis les propositions principales. Et en quoi est-ce que ça pourrait rendre une société plus résiliente, plus joyeuse d'ici 2030. Et donc, la première lecture fait que c'est sympa à lire, il faut le dire.
Juste pour compléter, on a aussi la page que tu as justement.
Ouais.
Des interviews de citoyennes et citoyens qui ont réellement participé à cette convention citoyenne pour le climat. Donc on a une interview d'un citoyen ou d'une citoyenne de chaque groupe de travail.
Mmh. Et c'est agréable, vraiment, en fait, c'est agréable parce que c'est relativement bref. Les petites intrigues sont marrantes, elles sont à la fois poétiques, parfois elles font rire. C'est rarement quelque chose qui est pessimiste ou qui nous invite à être éco-anxieux, en tout cas pas du tout dans cette lecture-là.
C'est vraiment l'idée qu'il y avait derrière en fait, la conception de cette BD et de toutes ces mini-histoires. C'est ce qui nous a guidés tout du long. C'est en fait comment on donne envie d'aller vers ça, comment on montre que le monde qu'il propose est enviable sans rentrer dans justement de la pub ou ce genre de choses. Et on a voulu, vu qu'on l'a fait à trois mains, enfin à six mains du coup, à trois personnes, on a chacun mis un peu nos sensibilités, notre humour. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a essayé de faire en sorte que chacun s'y retrouve en employant un peu des tons différents sur chacune des mini-histoires. Quoi.
Et ça se sent. Ça se sent que c'est agréable. Et ce qui m'a encore plus frappé, c'est peut-être la deuxième lecture que j'ai faite de ce livre, puisqu'ensuite j'ai tenté de le ficher, et donc de reprendre thématique par thématique, proposition par proposition, puis ensuite constat, proposition, et puis orientation globalement. Et on se rend compte aussi de la grande densité que vous arrivez à proposer en l'espace de seulement 123 pages, sans compter les définitions à la fin, définitions qui sont assez fondamentales aussi pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans la compréhension. Mais c'est en tout cas un exercice extrêmement réussi. Et ce que je te propose, Lucas, c'est qu'on puisse discuter un petit peu de ces propositions-là. Et donc, on rentre dans notre troisième partie où on fera une pause sans doute au milieu de cette partie-là, histoire de nous laisser un peu le temps de redescendre. Parce que là, on va rentrer dans le lourd. Il y a cinq grandes thématiques qui ont été cinq grands groupes de travail sur lesquels ont travaillé les 150 citoyens tirés au sort et citoyennes qui sont se nourrir, se loger, se déplacer, produire et travailler et consommer. Et donc, je vais te demander un exercice qui n'est pas fondamentalement facile, mais sur lequel tu as dû plancher comme un expert, Lucas, c'est de faire de la synthèse compréhensible.
Et donc, on a fait ça tout le long.
Bah oui, je me doute. Et tu pourras aussi, d'ailleurs, je te poserai la question juste après, expliquer comment vous avez fait pour à chaque fois couper, tout en gardant le contenu et sans l'édulcorer, nous faire des présentations synthétiques sur chacun de ces cinq thèmes. Donc, je vais te proposer un premier thème, puis tu vas me répondre, et puis on va faire ainsi de suite, sinon ça va être incompréhensible.
Juste avant, je me permets, sur la constitution en fait, de ces groupes de travail, à nouveau, en fait, à la première session, quand les 150 citoyens et citoyennes sont arrivés au CESE, il y a eu un nouveau tirage au sort qui s'est fait pour répartir justement ces 150 citoyens par groupe de 30, du coup, dans ces 5 groupes de travail. Voilà, donc c'est au tirage au sort aussi, c'est pas par affinité. Et ça a donné lieu à quelques drôleries, notamment par exemple dans le groupe Se Loger, on a fait l'interview dans le livre de William Ocan, qui est lui-même architecte et qui s'intéressait déjà à ces thématiques d'éco-construction, d'artificialisation des sols, etc. Et il a été tiré dans le groupe Se Loger, donc on a eu quelques...
Puis il y a des belles histoires aussi, par exemple dans le groupe Se Nourrir, trois papy de la PAC, c'est comme ça qu'ils ont été appelés, qui ont noué une affinité visiblement assez forte et ont travaillé particulièrement sur cette question. La PAC étant ?
La politique agricole commune de l'Union européenne.
Bon, on débute, Monsieur Lucas ?
Avec plaisir.
Donc, on va prendre la première thématique pour faire dans l'ordre. La première thématique, c'est consommer. Mm-hmm. Je te laisse environ 2 minutes pour nous présenter les constats et les propositions sur cette question.
Donc consommer, c'est une thématique qui nous permet de nous questionner sur la façon dont on consomme et notamment notre surconsommation. Donc ça va s'intéresser notamment à la pub, mais ça va aussi s'intéresser à la façon dont on donne les informations aux consommateurs. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait, de la même façon que le Nutri-Score, mettre un affichage sur le score carbone des produits. C'est consommer plus local, c'est mieux consommer, c'est moins consommer. Est-ce que ça te va ?
Ça me va très bien. C'est extrêmement bref. On a décidé, dans la façon dont on a voulu construire cette émission, de balayer un large pan de sujets sans forcément poser des questions davantage dessus pour une raison simple, c'est que on vous invite à lire la BD directement. Et là, l'objectif est de pouvoir un peu susciter les curiosités de celles et ceux qui nous écoutent. Donc, on comprend que pour ce qui concerne la consommation, c'est une consommation plus réfléchie, avec moins de suremballage. Et,
Exactement. Oui, le développement du vrac, moins de suremballage, moins de pub, de l'éducation à tout ça, un score carbone. Voilà, c'est très vaste, quoi.
C'est extrêmement vaste. C'est d'ailleurs la personne qui s'appelle Agnès, il me semble.
Oui.
Qui commente la partie consommée, explique qu'au début, elle était un peu déçue d'être dans ce groupe-là. Et que finalement, lorsqu'elle a compris les thématiques qui avaient lieu à discuter lors de ce groupe, elle s'est régalée. En tout cas, c'est ce qu'elle explique.
Oui, exactement. Ben, c'est vrai que de base, c'est moins parlant que des thématiques comme se déplacer, par exemple, ou se loger, se nourrir, où on voit exactement de quoi on parle. Consommer, c'est très vaste. Et de la même façon, produire et travailler.
C'est extrêmement vaste aussi.
Voilà, c'est extrêmement vaste aussi. Produire et travailler, on va s'intéresser à tout un tas de choses qui sont moins bien définies que d'autres groupes de travail.
Sachant que produire et travailler, il y a un moment où, sur cette question-là, qui a quand même émaillé toute la pensée communiste, socialiste, anarchiste, française et européenne de tout le 19e et le 20e et le début du 21e siècle, on ne peut pas proposer une approche là-dessus qui ne touche pas à des questions fondamentales de la façon de se voir en société et de penser nos moyens de production, penser la distribution des richesses. Qu'est-ce qui en est ressorti?
Là aussi, c'est favoriser de nouveaux modes de production, donc plus sobres, plus résilients. Donc par exemple, on va s'intéresser à l'économie circulaire, on va s'intéresser au recyclage, à la gestion des déchets. Après, tu disais aussi se réapproprier les moyens de production. Il y a quand même une intervention donc, de l'État, puisque c'était quand même dans ce cadre-là qu'est née la Convention. Et donc, du coup, ils réfléchissent dans les institutions existantes. Donc, notamment, on va avoir des créations d'institutions nationales donc, qui vont permettre, par exemple, de favoriser l'innovation pour la transition. Donc, comment on fait pour promouvoir, par exemple, plus une démarche low-tech qu'une démarche intelligence artificielle, numérique 4.0 ou je ne sais pas quoi. Comment on vient financer, finalement, la transformation de l'outil de production et des entreprises en général. Voilà. Donc, c'est aussi accompagner la reconversion des activités des entreprises, mais aussi la reconversion des activités des individus qui sont dans ces entreprises. Donc, en fait, c'est... En effet, développer le local, le circuit court, l'autoproduction, l'autoconsommation, mais c'est aussi comment on vient favoriser l'émergence de nouvelles filières via des investissements, via du soutien à la formation. Comment on réoriente les marchés publics, par exemple. Ça, c'était quelque chose que je trouvais assez important. C'est finalement comment on vient donner l'exemple sur la façon dont on produit directement à l'échelle nationale, quoi. Donc, si on réoriente tous les marchés publics en incluant des clauses environnementales dans la réalisation des ouvrages, par exemple, ça peut être vraiment transformant au niveau culturel et au niveau sociétal, quoi.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mesure, qui aurait pu être réellement révolutionnaire, c'est celle de la rediscussion du temps de travail avec une proposition qui n'a pas été retenue, et on en parlera juste après. La seule, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont seulement 149 propositions et non pas 150, qui était de passer de 35 heures de travail par semaine à 28. Et je cite, elle n'a pas été retenue parce que il y avait une volonté que cela ne soit pas caractérisé comme, ouvrez les guillemets, comme de gauche. Ce qui est intéressant, c'est que donc, ces citoyens, j'imagine qu'ils ne sont pas toutes et tous de gauche initialement. Et lorsqu'ils ont commencé à discuter sur comment est-ce qu'on produit, comment est-ce qu'on travaille dans une optique de réduction de notre impact carbone, à un moment, par rapport à ces questions de résilience et de sobriété, la question de la diminution du temps de travail est arrivée. Et donc, il y a eu des discussions qui ont dû être assez fortes sur cette question-là.
Oui, exactement. C'est en effet... Donc, en fait... une fois que tous les groupes de travail ont élaboré leurs mesures, ils les ont présentées à tous les autres citoyens, donc des autres groupes de travail, pour voter les mesures. Et quand on regarde les votes internes à la Convention citoyenne, des fois c'est assez stalinien, quoi. Là, j'ouvre une page au hasard, on est sur oui 97,9%, non 2,1%. Et on est fréquemment dans dans des taux de ce genre-là. Et là, celle-là, en effet, c'est la seule qui a été votée non, parce que de peur d'être trop caractérisée comme étant de gauche.
Voilà, et alors, c'est... est-ce que c'est parce qu'ils n'étaient pas convaincus eux-mêmes, ou est-ce que c'est parce qu'ils avaient peur que l'accueil du public derrière fasse qu'on se dise oui, mais ils ont été orientés par des lobbies.
Je crois que c'est plutôt la deuxième option. Ouais. Voilà. Mais c'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans les interviews de citoyens, et notamment quand on parle de l'amélioration de ce qui a été, et donc du coup ce qui aurait pu être fait. C'était notamment quand ils ont voté, ça aurait été peut-être bien qu'ils soient à huis clos. C'est-à-dire qu'ils n'aient pas accès justement aux réseaux sociaux, aux médias, et que inversement les médias n'aient pas accès à, aux propositions, ce qui aurait permis peut-être de rester dans un cercle sans prendre en compte finalement des opinions extérieures, et notamment sans avoir peur finalement, ou en tout cas en ayant moins peur de comment ça allait être reçu, quoi.
Sachant qu'il y a aussi une proposition qui est du groupe de travail suivant, qui est celui de se déplacer, où on sent bien également que le débat politique de l'époque est extrêmement marqué. C'est sur celui de la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la réduction de la capacité de vitesse autorisée maximale sur une autoroute qui passerait de 130 à 110. On était en plein dans le moment où les nationales ne pouvaient rouler que à 80 km/h et non pas à 90, ce qui avait entraîné un volte-face du Premier ministre de l'époque et des débats particulièrement âpres. Et là-dessus, pareil, il y a seulement un peu moins de 60% des citoyens qui ont adhéré à cette proposition, là où, comme tu le dis, presque toutes les autres sont à 90, 95. Est-ce que tu veux nous présenter les principales discussions qui ont eu lieu sur ce groupe de travail lié au déplacement ?
Alors, j'étais pas dedans non plus, mais justement, comme tu dis très bien, on était dans des crises qui, donc la crise des Gilets jaunes notamment, et tout ce qu'il y avait comme discussion sur la taxe carbone, sur le passage de 90 à 80 sur les nationales, on était dans toutes ces discussions-là, et en fait, pareil, ils ont eu peur finalement de s'attaquer à ça, en disant, oula, si on dit ça, il y a des chances que, en fait, rien ne passe, quoi. Rien ne passe, puisqu'on serait catégorisé, on aurait toute la population à dos. Et d'ailleurs, quand Macron a reçu les 150 citoyennes et citoyens à l'Élysée suite à la remise du rapport, donc ils ont rendu le rapport en juin 2020, je crois qu'il les a reçus en juillet 2020 à l'Élysée, il avait donné 3 jokers, dont la réduction. Donc il avait dit, ok, 146 mesures, je les fais passer à l'Assemblée sans filtre, il n'y a pas de problème. Sauf 3, et notamment la réduction de 130 à 110, il avait dit, si celle-là, je la laisse, vous allez vous faire dézinguer. Et je ne sais pas s'il avait raison ou tort. En tout cas, aujourd'hui, 3 ans après, sa première ministre en a reparlé il y a quelques semaines, de la possibilité qu'on réduise la vitesse sur les autoroutes de 130 à 110. Et en fait, elle est importante niveau émissions de gaz à effet de serre.
Est-ce que tu peux nous décrire, parce que probablement que certaines personnes qui sont en train de nous écouter sont dans les bouchons ou on n'espère pas en train de faire du rodéo sur les nationales et autoroutes des Bouches-du-Rhône. Quelle est la partie de réduction à la fois en termes de consommation écologique mais aussi en matière de consommation économique ?
Alors c'est exactement ce qu'on dit dans ce scénario qu'on a fait. C'est justement quelqu'un qui explique ce que ça impliquerait au niveau environnemental et au niveau économique. Donc sur 100 km, de réduire de 130 à 110, ça permettrait d'économiser 1,3 litre de carburant. Et donc du coup, ça fait, sur 100 km, ça fait, si on dit que le carburant, donc aujourd'hui, il est à 1,80, nous on a simplifié, en disant à 2 euros le litre, puisque en plus, à l'époque où on a fait le scénario, il était vraiment à 2 euros le litre, ça fait quand même 2,60 euros d'économiser pour 100 bornes. Et finalement, si on le ramène au temps qu'on économise en roulant à 130 plutôt qu'à 110, donc on économise notamment... On perd exactement sur 100 km, on perd 8 minutes, en gros. Voilà, en roulant à 110 plutôt qu'à 130. Et donc, du coup, quand on perd une heure, en gros, on économise l'équivalent de 20 euros, pas loin. Et si on ramène ça à un salaire, ça fait énorme. Ça fait un salaire d'à peu près 2 800 euros. Donc du coup, voilà, c'est, au niveau économie, c'est hyper important. Et puis après, bah, ça fait quand même 1,3 litre d'essence économisée sur, sur 100 km. Sur, oui, c'est ça, sur 100 km. Pardon.
Mais ça, c'est ça qui est bien dans, dans cette BD, c'est qu'il y a des propositions qui peuvent être de l'ordre du systémique. Et en réalité, vous arrivez parfaitement bien à montrer quelle va être l'implication pour les citoyens dans leur vie. Et inversement, comment est-ce que l'engagement d'un citoyen peut avoir une réelle d'une citoyenne aussi également peut avoir une incidence sur sur le mode de vie et sur la société dans laquelle on vit. Et donc là, cette planche, mais comme bien d'autres, témoigne de on va dire de ces changements d'échelle qu'on essaie aussi nous aussi à la radio de montrer chaque semaine, de l'individu dans un collectif, le collectif dans le système, et puis après comment est-ce qu'on redescend, etc.
Je crois que là, justement, avec leurs propositions, on sort un peu de ce qu'on appelle parfois le triangle de l'inaction, qui est non, mais c'est pas à nous, individus, de faire des efforts. Il faut que les entreprises fassent des efforts, il faut que le gouvernement fasse des lois, etc. Et donc, en fait, on se renvoie un peu les responsabilités. Là, ce qui était vraiment intéressant aussi avec ce rapport, c'est qu'on sort de ça et on dit non, en fait, il faut que... Il y a des mesures qui concernent les individus directement, il y a des mesures qui concernent les entreprises, et il y a des mesures qui concernent l'État, ou en tout cas les collectivités, etc. Donc du coup, chacun doit agir à son échelle et chacun doit faire des efforts dans le sens d'une réduction, puisqu'on doit, bah, justement, comme tu dis, faire société, quoi. Donc c'est un peu bizarre d'opposer aujourd'hui individus, entreprises et collectivités, ou en tout cas voilà, institutions, quoi. Là, on dépasse un peu ces oppositions.
Et ça, ça se retrouve dans les deux autres, les deux derniers groupes de travail. Le temps file, on se rend compte que c'est tellement vaste que c'est difficile de faire une émission qui puisse être à la fois tout balayée et quand même essayer de rentrer un tout petit peu dans les détails. Ce qui est intéressant, c'est que le groupe de travail suivant que vous avez présenté, qui est sur la question de se loger.
Oui. Oui, si je peux revenir juste sur se déplacer. En gros, se déplacer, principalement, ça va être comment on favorise d'autres mobilités que la voiture individuelle, principalement. Et donc, du coup, c'est tout un tas de mesures qui permettent de développer des mobilités actives, etc. Voilà, je voulais juste revenir dessus. Il n'y a pas que la réduction de la vitesse sur les autoroutes dans ce groupe se déplacer.
Très bien, c'est bien noté. Et c'est bien de montrer aussi quelle est la grande idée qu'il faut retenir. Et c'est d'ailleurs cet effort de concision que propose le groupe de travail Se Loger, qui n'a fait que 3 propositions, mais qui explique que c'est suffisant parce que ces propositions sont tellement transformatrices que pas besoin d'en faire beaucoup d'autres.
Bah, en fait, c'est pas tellement transformatrice. C'est surtout qu'en fait, ils avaient une mission qui était de réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale, à nouveau. Et en fait, dans le groupe Se Loger, rien que la rénovation thermique et l'arrêt de l'artificialisation des sols remplit largement la part de l'habitat, quoi. Donc on réduirait avec ces deux mesures de 40%. Donc il y a 3 mesures. Il y a sur l'artificialisation des sols, la rénovation énergétique des bâtiments et aussi comment on limite la consommation d'énergie dans les lieux publics, privés et les industries. Donc à nouveau, on retrouve ces 3 échelles. Mais ces 3 mesures-là, elles permettent largement de remplir la part qui est imputée à l'habitat sur ces 40%. Donc voilà, ils ont dit, déjà si on fait ça, ce serait énorme. Voilà. Donc oui, ils ont dit, bon, pas besoin de plus, quoi.
Et c'est bien, et c'est agréable d'avoir cet effort de concision qui montre qu'il y a des capacités d'action qui sont extrêmement fortes, sans en faire des tonnes en termes de propositions. On commence par ça et c'est déjà pas mal. Et ça renvoie d'ailleurs avec Dernière Rénovation, qui est un mouvement citoyen qu'on espère un jour pouvoir recevoir ici à la radio et qui considère que c'est un des enjeux énormes sur lesquels on peut à la fois être dans plus de justice sociale, parce qu'on aura moins chaud l'été, moins froid l'hiver, et dans une approche résolument sobre en matière de consommation d'énergie. Dernier groupe de travail, se nourrir. Alors eux, ils ont fait des propositions qui sont plus importantes.
Oui, beaucoup plus nombreuses.
Voilà. Est-ce que tu peux, comme tu l'as fait jusqu'à présent, nous faire une synthèse des propositions que vous avez eues à relater dans votre BD à ce sujet-là?
Un peu de la même façon que produire et travailler permettait de changer un peu nos moyens de produire, justement. Là, ça va être la même idée. Ça va être comment on produit différemment et comment on consomme différemment. Donc, c'est un peu un mash-up des deux premiers groupes, mais sur les thématiques vraiment de l'alimentation. Donc, c'est par exemple comment on fait pour que dans la restauration collective, on ait des pratiques plus responsables. Comment on fait pour qu'au niveau de l'agroalimentaire, ce soit plus juste pour les agriculteurs qui puissent justement aller vers des pratiques plus vertueuses. Comment on va développer les circuits courts. Voilà, il y a énormément de choses à beaucoup de niveaux. Donc, il y a aussi évidemment comment on développe l'agroécologie. Donc, comment on passe d'une agriculture intensive aujourd'hui conventionnelle à quelque chose de beaucoup plus respectueux de l'environnement, au niveau des sols, au niveau de l'eau, au niveau de la biodiversité, tout ça. Donc, en fait, finalement, évidemment, tout ça doit s'accompagner une fois de plus de formation, qui est un aspect qui revient très, très souvent. Et c'est assez intéressant de noter que dans celui-là, dans cette thématique-là, on a, c'est un peu le seul endroit où on a une vision sur la politique de l'Union européenne, puisque en fait la politique agricole qu'on a en France est très soumise à la PAC, donc la politique agricole commune dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, si on veut transformer les pratiques agricoles en France, on a besoin de tenir une position ambitieuse à l'Union européenne. Et c'est exactement ce que la Convention propose pour pouvoir justement après la décliner sur des plans stratégiques nationaux à l'échelle de la France. Quoi. Comment on peut utiliser plutôt la PAC pour transformer aujourd'hui nos pratiques plutôt que de continuer dans des pratiques destructrices.
Et ça, c'était un des sujets que je te posais en amont de cette émission, de savoir comment est-ce que la France peut participer à la transformation de la PAC et d'un certain nombre de politiques européennes. On n'aura pas le temps d'en discuter ce soir, notamment ensuite sur le fait que ce que je trouvais assez frappant, c'est parfois qu'il y ait des déclarations d'intention disant on a envie que dans la balance extérieure, on soit plus exigeant en matière de labels et de... à la fois éthique et écologique, qu'au niveau européen, on puisse rediscuter la PAC, etc., sans toujours questionner la matrice même de ces rapports-là, la matrice même ordolibérale qui est fondée sur le marché unique dans le cadre de l'Union européenne. Et on le comprend parce que sinon, c'est un exercice déjà, qui est gigantesque.
Voilà, déjà que c'était extrêmement vaste comme sujet, et c'est les citoyens qui en parlent très bien. Déjà que c'était extrêmement vaste comme sujet, d'ailleurs, au début c'était censé être sur 6 séances, donc sur 6 mois, et entre la crise du Covid et le fait que ce soit un sujet tellement vaste, ils ont demandé d'allonger cette durée à 9 mois. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et ensuite, il faut faire attention aussi au vocabulaire, donc là c'était de réduire de 40% nos émissions, ce qui signifie nos émissions sur le territoire. Ce qui est différent de l'empreinte carbone. Donc en fait, l'empreinte carbone qui va compter aussi les émissions importées. Donc c'est-à-dire que par exemple, si mon pull vient du Bangladesh...
Eh bien, ça ne fait pas partie de l'émission faite du territoire français. Exactement. Parce qu'elle est importée de l'extérieur.
Exactement. Donc tout ce qu'on peut demander, c'est si on continue d'importer autant, bah, il faudrait que ce soit plus responsable. Mais ce n'était pas dans le cadre de leur mission de s'intéresser à la façon dont on produisait ailleurs. Et donc, en fait, eux, ce qu'ils ont dit, c'est que si on développe les circuits courts, si on développe des pratiques responsables sur la manière de produire en France, donc production de biens ou production alimentaire, ça permettrait justement aussi de changer de modèle, quoi, d'aller vers quelque chose de plus vertueux, plus responsable.
Et ce qu'on retient, c'est que alors même qu'ils n'ont eu à réfléchir que sur les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites sur le territoire français, qu'on a allongé la durée de travail qui était de 6 mois à 9 mois là-dessus, qu'ils ont réfléchi entre eux sur le fait de pouvoir proposer des mesures qui puissent être le plus consensuelles que possible, et alors même que le président de la République s'est engagé en amont du travail et en aval du travail, du rapport qui a été proposé pour qu'il soit présenté sans filtre au Parlement ou à référendum, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc, on va, dans la dernière partie de l'émission, réfléchir à des grands leviers qui pourraient être activés ou qui sont déjà activés pour que malgré tout ce travail puisse continuer à se diffuser. mais on va quand même prendre le temps de respirer pendant une minute. Donc on va écouter une demi-chanson parce qu'il y a encore beaucoup de choses à aborder, mais au moins, prends le temps de respirer pour Lucas, pour Gillian, pour moi et puis pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. À tout de suite sur Radio Galère. Qu'est-ce que tu nous fais écouter ce soir, Lucas ?
J'ai choisi Solidarité, voilà, de M.
À tout de suite.
Toumani Diabaté.
Vamos que vamos. Alô, Babilônia, vamos acordar.
Acorda, galera, vai ser filmado.
Ye, 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 la. Ye, 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 la.
I don't love a new freedom and I know so well what to stand up for. How come he don't know like me what the hell they fighting for? Not a man with the blame ring us further apart, but he do not know. You can't rule another's heart. You can't get a love below.
J'ancrais l'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits.
نفس الشمس بتشرق علي وعليك. نفس النجمة بعيوني بتضوي بعيني.
Joia, amizade até sem querer. Faz com que a bondade se instale sem saber. Com boa vontade vamos estender as mãos, promovendo a união pra poder melhor viver.
Yeah, 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 yeah.
La grande vie nous a plongé dans sa cohue. Dehors y'a pas d'étrangers, y'a que des inconnus.
Yeah, 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 yeah.
Solidarité, voilà ce qu'on est venu demander. La beauté n'a pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté.
Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois.
Vous êtes de nouveau et vous êtes de retour sur Radio Galère sur le 88.4 dans l'émission Écoforum qui donne la parole aux acteurs et aux actrices des transitions environnementales et solidaires qui s'inscrit dans le cadre de la forêt des possibles que l'on construit semaine après semaine en tissant les travaux et les propositions de celles et ceux qui viennent témoigner et qui vous invitent à trouver votre juste place individuellement, collectivement, et ce, afin de transformer le système. Nous sommes toujours avec Lucas Zufik, qui est un des co-auteurs de la BD « Apporter demain », dont vous aurez noté le jeu de mots. « Apporter », c'est le fait du verbe « apporter », mais ça peut aussi être juste à côté de notre main. Voilà, les calembours et les jeux de mots sont des choses qui sont plus appréciées par mes camarades autour de cette table, aussi bien en studio que en régie avec Gillian. Et on continue pour cette dernière partie. Et donc là, ça va être un peu plus lié à ton avis personnel, Lucas. On a dit que ces propositions qui étaient extrêmement ambitieuses et en même temps qui pouvaient être socialement le plus acceptées que possible parce que discutées par 150 citoyens tirés au sort qui ont pris le temps de discuter, n'ont pas telles quelles été votées telles que ça avait été tel que le président de la République s'était engagé à le faire. Et pourtant, il y a forcément des façons de continuer à faire vivre ces travaux. Et donc, on avait pris en amont de cette émission trois grands thèmes. On n'aura peut-être pas le temps de tous les aborder ce soir parce que c'est encore une fois très vaste.
Je vais parler très vite.
On va parler très vite, mais je pense qu'aussi il faut que ça reste digeste. Oui. On va commencer par la question de la démocratie participative qui permet une meilleure application en amont et une meilleure application en aval parce que mieux accepté.
Oui, bah, tout à fait. En fait, la force de cette convention, c'est aussi d'avoir des gens qui viennent de partout, qui ont des expériences très diverses, des expériences de vie très diverses. Il y a des jeunes,
des très jeunes même, des mineurs, des vieux, de plus de 80 ans. Il y avait vraiment une représentativité énorme. Et d'ailleurs, c'est un des thèmes qu'on aime bien aborder avec les citoyens, parce qu'ils se retrouvent dans un brassage social qui est absolument phénoménal et que peut-être ni toi ni moi ne connaîtrons de notre vie. C'est-à-dire que sur des thématiques, ils nous racontent qu'ils ont travaillé par exemple avec un pilote d'avion privé et une éleveuse de loups dans les Alpes. Donc en fait, on a quand même deux profils qui sont extrêmement opposés et qui réussissent à se parler ensemble. Et notamment, tout à l'heure, on soulignait le rôle des facilitateurs pour justement faire naître cette intelligence collective. Mais donc du coup, si ces mesures ont été votées par les 150 citoyens, ça montre que quand on nous donne les informations, quand on nous donne la formation qui va bien, on peut discuter tous ensemble, puisqu'on part des mêmes bases, et finalement trouver des solutions qui soient acceptables par tous. Et donc c'était exactement l'idée de cette convention citoyenne, et de la démocratie participative en général d'ailleurs. Mais ça doit s'accompagner quand même de cette formation au préalable. Et donc du coup, vient ici la question de si on souhaite mettre en place plus de démocratie participative, comment on forme les citoyens pour qu'ils puissent répondre justement aux sujets qui leur sont posés.
Et alors il y a la formation en amont, avec celle qui a été proposée par les fact-checkers et puis par les scientifiques et les experts qui ont permis de nourrir en réflexion et en information factuelle tous les citoyens et citoyennes dans leurs décisions. Mais il y a aussi cette formation continue qui se fait en aval, oui, et qui a pour but de s'étendre. C'est un des enjeux de cette BD, c'est de pouvoir participer à faire du grand public et puis aussi à pouvoir faire une éducation populaire, j'imagine.
Oui, exactement. C'est comment on fait pour mettre à disposition de tous un rapport qui est assez indigeste. C'est un rapport, quoi, de 430 pages. Donc là, on a essayé de synthétiser, de faire en sorte que ce soit accessible. Donc nous, on s'est dit qu'à partir de la quatrième, c'était bien compréhensible. Après, peut-être pas tout, et peut-être qu'un peu avant même, ça peut être intéressant. Donc en effet, ça continue à vivre. Et d'ailleurs, les 150 citoyens et citoyennes, quand ils ont terminé leur mission, on leur a dit merci beaucoup, rentrez chez vous. Et sauf que en fait, leur vie a été tellement transformée par cette expérience et par notamment tous les constats qu'ils ont reçus, qu'ils ont dit mais c'est pas possible en fait de reprendre notre routine telle quelle, quoi. Et donc ils se sont constitués en association qui s'appelle les 150 et qui a pour but de continuer à défendre leurs travaux. Donc en fait, quand on a eu l'idée de cette BD, on les a contactés dès qu'on a eu un petit peu de matière, pour leur proposer le projet, quoi, pour leur dire voilà ce qu'on pense faire. Et ils ont été très emballés, puisque ça rentrait exactement dans leur mission. C'était un outil, c'est un outil qui leur permet de venir parler finalement de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils ont proposé. Voilà.
Merci Lucas. Il y a une dernière question que j'aurais voulu te poser, mais je ne vais pas te la poser pour rebondir sur ce que tu viens de dire, mais je vais quand même l'évoquer pour celles et ceux qui nous écoutent. Quelque chose qui est extrêmement fort, que l'on retient quand même beaucoup dans la BD. Alors, il y a la partie éducative sur le changement des comportements, sur le changement du regard et qui est lié à la transformation des imaginaires. Et ça, c'est, on va dire, culturellement, philosophiquement, politiquement, poétiquement, même pour reprendre un peu les mots d'Aurélien Barraud dans un de ses derniers essais. Et il y a aussi le fait de pouvoir réorienter les investissements pour pouvoir faire en sorte que derrière ça puisse se mettre en pratique concrètement.
Extrêmement rapidement, j'y réponds. Il y a eu sur quasiment toutes les mesures, sur beaucoup de mesures qui nécessitent des investissements et qui nécessitent des transformations qui coûtent un peu d'argent, il y a toute une phase qui a été pensée comme étant de l'accompagnement, comment on vient aider ces gens à faire leur transformation. Et puis, à la fin de cette phase, on aurait une phase de malus, en gros. Si vous n'avez pas mis en place ça alors que vous avez bénéficié d'aide, amende, quoi. Et on vient taper au portefeuille. Et donc, du coup, on finance aussi les transformations grâce aux mauvais élèves. Voilà.
Et alors ça, on n'en parlera pas ce soir, on pourrait en parler à une autre occasion, parce qu'il ne nous reste que 2 minutes. Mais alors, Lucas, je vais t'inviter à conclure sur une philosophie qui se ressent très bien dans ce livre et qu'on essaye, nous aussi, de pouvoir tissé semaine après semaine dans cette émission, c'est la place du moi dans le nous et du nous dans le tout, c'est-à-dire d'un individu qui s'investit dans un collectif et le collectif qui va transformer le système. Je trouve que ça se ressent à la fois par ton engagement, celui de Théo et de Jonas, celui de celles et ceux qui se sont engagés dans la Convention citoyenne pour le climat et qui est remis finalement à notre esprit page après page dans la BD où on comprend comment est-ce que la vie d'un individu va ensuite pouvoir transformer la communauté à laquelle il appartient et que ça s'inscrit également dans quelque chose d'encore plus vaste. Quel est ton regard et, en termes de conclusion sur notre capacité à pouvoir nous saisir de notre destin?
Je pense qu'en effet, des initiatives comme ça permettent à des gens de se sentir, enfin à tout le monde en fait, de se sentir en capacité de prendre part aux décisions. Et en fait, c'est ça une démocratie. C'est aujourd'hui, c'est à nous de décider ce vers quoi on veut aller. Et je pense que c'est hyper important. En effet, comme tu dis, c'est comme ça qu'on a construit aussi le livre. C'est en se disant, on espère qu'en ayant accès à l'information et en ayant accès à la connaissance de cet exercice, ça va donner envie aux gens de se dire, il faut qu'on s'engage, il faut que nous aussi, on a une responsabilité. Et à nouveau, c'est toute la société qui a une responsabilité de s'engager et de prendre part aux décisions. Voilà.
C'est une belle conclusion, non ?
Bon, j'espère.
Que d'inviter chacun et chacune à s'engager, à comprendre que qu'en faisant notre part, tel un petit colibri, il y a plus de possibilités d'action que l'on le croit. Et peut-être que le plus difficile, c'est de passer le prochain pas.
Oui. Très bien.
Et bonne conclusion. Merci, Lucas.
Merci à toi.
Dont on rappelle que la BD a porté demain la France de la Convention citoyenne pour le climat qui est, donne-moi le mot.
Aux éditions Les Enfants Rouges,
est actuellement en vente. Sachez qu'elle est en ce moment presque en rupture de stock, mais qu'elle sera avec une deuxième réédition tellement c'est un succès. Et ça se comprend bien lorsqu'on lit le livre. Donc n'hésitez pas à complètement finir ce stock-là. Et permettre assez rapidement qu'il y en ait encore d'autres. À ce titre-là, on est plutôt heureux que du papier puisse servir pour ce genre de projet d'initiative générale. On rend l'antenne. Merci Gillian et à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.